France Culture, sans oser le demander, Géraldine Mosna-Savoie.
3 janvier 2003, Monique Wittig disparaît, dans une relative indifférence. Bizarre si l'on en croit la portée très actuelle de ses thèses sur l'hétérosexualité et la pensée straight. Logique si l'on en croit justement ses thèses sur l'hétérosexualité et cette pensée straight. Car oui, ce que voulait Monique Wittig, ce n'est pas du féminisme qui se bâtit autour de la femme, cette entité idéologique faussement naturelle, mais d'une nouvelle société sans catégorie de sexe, une société lesbienne. Mais pourquoi les lesbiennes ne seraient-elles pas des femmes, selon Wittig, et comment alors toutes devenir lesbiennes ?
Je trouve que les femmes sont suffisamment riches et vraiment elles le sont pour moi. Ce sont les êtres qui sont les plus riches, les plus surprenantes, les plus extraordinaires parce que je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'elles ont été opprimées si longtemps, peut-être parce que je les désire tout simplement. Je peux pas te dire, mais pour moi c'est magnifique le monde des femmes. Quand j'étais gosse, j'étais élevée avec des femmes et uniquement avec des femmes. J'étais très bien. Après j'étais très mal parce que tout ça a changé, c'était atroce. Il fallait vivre dans un autre monde où tout d'un coup la vraie valeur c'était les hommes. Moi je n'avais pas appris à penser comme ça, du tout. C'était un choc pour moi de découvrir, et à travers les livres et à travers la réalité de tous les jours, que la vraie valeur de ce monde c'était les hommes. Et que nous, on n'existait pas, alors que pour moi, c'était nous seuls qui existions d'abord.
Depuis 5 ans, tu n'as pas de conversation avec les hommes.
Mais je ne suis pas la seule, et quelquefois on s'émerveille, on se dit mais c'est fou, finalement ça peut marcher, on peut vivre complètement entre nous.
Bonjour Natacha Chetkuti-Ozorowitz.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, maître de conférences à l'université Paris-Saclay et chercheur permanente à l'ENS Paris-Saclay. On vient d'entendre la voix de Monique Wittig en 1971. Avant de nous la présenter, pouvez-vous nous dire comment Monique Wittig en est venue à prôner un monde composé uniquement de femmes ?
Alors, peut-être il faut donner quelques éléments socio-historiques. Je dirais, l'œuvre de Wittig n'est pas une œuvre qui vise à prôner ni une société lesbienne, parce que c'est pas une fin en soi, mais c'est un moyen, ni une société non mixte, mais c'est plutôt une auteure, écrivain, qui a pour visée l'abolition des classes de sexe, l'abolition de la marque du genre.
Alors pour il, elle, homme, femme.
C'est ça. Qui sont pour elle des catégories totalisantes, des catégories qui empêchent en fait de faire advenir la notion d'humain, puisque ces marques qui sont issues d'une hiérarchisation des rapports sociaux vient naturaliser des attendus de genre et viennent les sanctionner plutôt du côté des femmes, puisque pour Wittig il n'y a pas de marque de genre, il n'y a qu'une marque de genre, puisque l'autre marque vient laisse à penser au fond qu'il y aurait un générique non marqué. Et quand même, pour répondre aussi à votre question, quelques éléments, c'est-à-dire que quand Wittig dit ça en 71, on est au début du MLF, du mouvement de libération des femmes, elle en fait partie, elle va créer avec d'autres des groupes militants, mais en parallèle se créent aussi des groupes de lesbiennes non mixtes, et déjà dans quelque chose de très très conflictuel, dès le début des années 70, où un certain nombre de lesbiennes vont dénoncer ce qu'elles appellent l'hétérosexisme de ces mouvements, et peut-être va venir hétérosexisme qui à la fois des mouvements féministes, mais aussi des mouvements mixtes du FAR, du Front d'Action Homosexuelle d'Action Révolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire hétérosexisme ? C'est-à-dire des pratiques à la fois militantes, mais des pratiques aussi de discours qui construisent et maintiennent l'hégémonie de l'hétérosexualité au profit de la domination masculine. Ça, c'est la première pierre, je dirais, mais elle n'est pas seule à penser tout ça. C'est-à-dire que c'est à l'intérieur d'un ensemble de collectifs qui vont être extrêmement, je dirais, tendus pendant toutes les années 70. Par ailleurs, alors je sais pas si, mais par ailleurs, je dirais que dès les débuts des années 70, Wittig va commencer aussi à, vous l'avez dit tout à l'heure, mais à critiquer le mythe de la femme parce que dans ces années 70, il s'agit aussi pour beaucoup de militantes féministes de rendre visible cette catégorie sociale que sont les femmes qui jusqu'alors n'étaient pas visibles.
Alors tout le paradoxe de commencer avec cette archive, c'est qu'on entend Monique Wittig dire « un monde entre femmes, c'est tellement bien » et en même temps dans ses textes, et notamment dans le texte « La pensée straight » dont nous allons parler aujourd'hui avec vous et qui date de 1978, elle va critiquer ce terme de femme. Alors comment comprendre cette tension? On imagine qu'il s'est passé des choses entre le début des années 70 et la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et alors peut-être que c'est l'occasion justement de dire voilà, qui est Monique Wittig et comment elle en est venue à tenir de telles thèses.
Alors, donc je vous disais tout à l'heure, hein, Monique Wittig est une auteure.
C'est important de dire auteur.
Auteur.
On va pouvoir revenir dessus.
Et je reviendrai absolument. Auteur, écrivain, premier livre, Le Poponax en 1964, qui a eu le prix Médicis. Deuxième, Les Guerrières, justement, en 1969, où déjà elle commence à critiquer la domination masculine. Elle vient quand même du mouvement de mai 68 aussi, hein, du mouvement ouvrier, étudiant, etc. Et première chose, premier élément, elle va s'inspirer beaucoup des travaux issus des théories matérialistes, féministes matérialistes, où elle vient à penser non pas la question femme-homme comme des rôles sociaux, mais on est bien à l'intérieur d'une analyse critique du rapport social, et en termes aussi marxistes de classe, de sexe, homme et femme, ça veut dire quoi? Classe sociale, de sexe, ça veut dire, c'est l'idée que, au fond, les rapports sociaux sont antagonistes, mais dans les mouvements féministes et dans les théories féministes de l'époque, cette critique, elle s'ancre dans une critique du patriarcat. Pour Wittig, elle vient dénoncer aussi cette stratégie unique du patriarcat et elle montre en fait qu'il faut dépasser cette notion même parce que la notion de patriarcat ne vient pas questionner le fondement du régime hétérosocial qui pour Wittig est vraiment la racine de l'organisation sociale qui en fait justifier et coproduire ces rapports sociaux de classe, de sexe qui hiérarchisent et qui différencie les rapports entre les femmes et les hommes.
Donc ça veut dire que Monique Wittig se situe dans la lignée non pas seulement de Marx et du matérialisme, mais aussi d'une Simone de Beauvoir,
par exemple,
qui va dire que les femmes ne sont pas assignées à un destin biologique, mais sont vraiment le produit en fait, d'une construction sociale et historique.
Tout à fait. Et ça, elle va l'écrire dans l'article « On n'est pas femme ». Mais avant cela, quand même, ce que je voulais... Parce que c'est important, cette critique du patriarcat chez Wittig. D'ailleurs, justement, effectivement, elle va complètement débattre avec Simone de Beauvoir là-dessus. Elle écrit déjà, et ça, cette citation, je la trouve intéressante, elle dit « Pourquoi on critique la notion de patriarcat ? Il suppose des pères et donc des mères, un pouvoir des pères sur les mères, et donc il escamote l'hétérosexualisation, l'hétérosexualité comme système de domination. En outre, ça voudrait dire que si on ne se base que sur cette analyse, que les femmes sont d'abord et avant tout définies comme des mères et forcées à l'être. » Bon, ça, c'est la première chose. Et effectivement, l'autre élément, vous l'avez dit tout à l'heure, elle déconstruit le mythe de la femme au singulier, qui est central dans le mouvement féministe d'années 70, parce qu'elle montre comment aussi ce mythe vient aussi consolider le présupposé naturaliste de la différence. Comme principe de l'altérité. Et au fond, c'est un piège, parce que cette idéologie, elle va opérer, justement, un rapport social très arbitraire de catégorisation femme-homme, en entretenant un déséquilibre social entre la classe de sexe femme et la classe de sexe homme. Et ça, cette distinction, pour Wittig, elle est à la base de la société hétérosexuelle.
Donc, oui. Allez-y, continuez. Oui.
Et c'est pourquoi on peut penser grâce à Wittig, et ça c'est un concept majeur, on peut penser grâce à elle en termes d'hétérosexualisation des rapports sociaux et non plus seulement en termes de rapports sociaux de genre. Donc le changement pour Wittig, ça n'est pas d'aménager les rapports sociaux. Ça n'est pas de faire de la différence quelque chose de complémentaire et de on vit avec ça. C'est au contraire d'abolir l'usage de la catégorisation de sexe comme outil de perception de social, que ce soit la catégorie de sexe homme ou femme. Et là, elle vient opérer une rupture, je dirais, à la fois épistémologique et politique, avec les théoriciennes féministes, un certain nombre de théoriciennes féministes, mais de militantes aussi, par justement, vous le disiez, ce déterminisme du devenir femme. Et donc, elle répond effectivement à Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient. Elle écrit, au fond, on ne naît pas femme à... On pourrait dire, ça c'est un de mes articles sur Wittig, mais j'ai écrit un article qui est « On ne naît pas femme » à « On n'est pas femme », N-E-S-T. Mm-hmm. Et là, elle va démontrer qu'il n'existe pas de groupe naturel. Et effectivement, elle remet en cause cette idéologie de la femme qui n'est qu'un mythe, qui est un piège pour elle. Pourquoi c'est un piège ? Parce que, et c'est même pour elle plus qu'un piège, c'est une position anti-féministe. Parce que, au fond, ça maintient et ça naturalise la subordination des femmes. Donc,
on l'entend dans ce que vous dites. C'est-à-dire que Monique Wittig va développer des thèses très originales
avant
78 sur le féminisme. Elle va d'ailleurs en fait se détacher d'une certaine manière d'un féminisme traditionnel qui veut libérer la femme. Elle ne veut pas libérer la femme. Elle veut tuer la femme d'une
complètement
certaine manière.
Au fond, on pourrait dire que Wittig introduit un discours de destruction des catégorisations. C'est fondamental pour elle. Elle pense que la catégorie de sexe, au fond, est une catégorie totalitaire. Pourquoi c'est totalitaire ? Et on en vient à la pensée straight. Mais pourquoi ? Parce que elle forme l'esprit tout autant que le corps. Puisque ça vient aussi contrôler notre production mentale et notre manière d'agir dans nos corps. Et d'ailleurs, elle dit mettre à l'œuvre le c'est merveilleux d'être femme, c'est retenir pour définir les femmes les meilleurs traits dont l'oppression nous a gratifiés. Encore dit-elle qu'il ne soit pas si bon que ça. Et ça n'est pas remettre en cause radicalement les catégories hommes et femmes qui sont des catégories politiques et pas des données de nature. Et la pensée straight, en fait, elle va écrire cet article dans un contexte tout à fait particulier où effectivement elle répond entre autres à Beauvoir, mais pas que. Donc, on est en 78, Monique Wittig est partie aux États-Unis parce qu'en fait,
elle s'est exilée
aux États-Unis, tout à fait, parce que ses positions ont été très controversées dans les mouvements féministes, mais aussi dans les mouvements académiques. Et en 77, se crée la revue Questions féministes, qui se présente comme une revue féministe radicale, dans laquelle on va trouver Colette Capitan, Christine Delphi, Emmanuel de Lesseps, Nicole-Claude Mathieu, qui est une anthropologue majeure aussi, qui dialogue beaucoup avec Monique Wittig, Monique Plaza, etc. Simone de Beauvoir est directrice de publication et pour le numéro 4, en fait, le collectif décide de faire un numéro sur les lesbiennes. Alors au départ, Monique Wittig s'en réjouit et puis en fait, après elle s'y oppose car pour elle, il est hors de question de traiter du lesbianisme comme un problème entre guillemets ou une spécificité. Bien au contraire, pour elle, le lesbianisme doit être pensé. Pour ça, c'est pas l'idée de fonder une société lesbienne, mais c'est un point de vue à partir duquel penser justement l'oppression en mettant l'accent sur une analyse de la pensée de la domination qui est fondée sur le primat de la différence et l'hétérosexualisation des rapports sociaux.
Donc, si je vous suis bien, adopter le point de vue lesbien pour Monique Wittig, ça ne veut pas dire toutes devenir lesbiennes, c'est adopter un point de vue qui puisse se soustraire à une vision hétéronormée, hétérosexuelle de la société.
Hétérosociale, je dirais même. Parce que hétéronormée, ça renvoie, encore une fois, à des relations sociales de genre. Pour Wittig, c'est vraiment, on parle d'hétérosocialité ou de société hétérosexuelle. Donc, effectivement, le lesbianisme est un point de fuite. C'est une fuite, c'est une position de l'oblique. Mais c'est aussi... Alors, quand il est conçu politiquement, une stratégie consciente de résistance.
Donc, on peut éviter tout de suite, interromps, c'est-à-dire qu'on peut tout de suite éviter de se dire que Monique Wittig demande à ce qu'on devienne toutes lesbiennes, donc ne se pose pas la question à... Ok, donc parce que les auditeurs ne vous voient pas comme moi, mais vous dodelinez. Donc, si elle veut quand même, donc qu'on devienne toutes lesbiennes.
Elle veut pas. Elle n'a pas d'ambition programmatique sur les individus. C'est pas.
Elle l'espère.
En tout cas, je pense que non. Son vœu ou son objectif le plus important, c'est l'abolition tout court des catégorisations de sexe dans une vision très utopique. Au fond, on pourrait dire que Wittig est est un écrivain à la fois, du renversement textuel, du renversement justement du point de vue, mais également utopique, c'est-à-dire qui se réapproprie le réel dans ses écritures pour le transformer. Donc, c'est plutôt faire advenir une autre modalité de société, c'est-à-dire qui échappe aux catégorisations, mais aussi aux catégorisations duales, hétérosexualité, lesbianisme.
Donc ça veut dire que le lesbianisme, être lesbienne pour Monique Wittig, n'est pas forcément uniquement de l'ordre de la sexualité.
Tout
à
fait.
De l'ordre du désir.
Ça c'est
important,
important
de le dire. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas d'être lesbienne, on choisit de vivre dans une société qui ne soit plus hétérosociale.
Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la posture lesbienne politique, qui va, je dirais, découler à la fois des textes de Monique Wittig, mais aussi de tout le mouvement lesbien radical à partir des années 80, qui va se constituer avec des groupes existants, hein, tels que le Front des lesbiennes radicales, etc., et dans tout l'espace francophone, c'est effectivement l'idée de sortir d'une vision réductrice du lesbianisme comme orientation sexuelle, ça tout à fait. C'est également sortir d'une analyse réductrice féministe, enfin qualifiée de réductrice féministe, des mécanismes d'oppression qui n'auraient justement pas problématisé les stratégies de dépassement du dit patriarcat. Tout à fait, ça c'est tout à fait juste. Et le lesbianisme alors est présenté comme un choix politique, une stratégie politique qui n'est effectivement, dans ce cas-là, non pas une histoire de préférence sexuelle, ça tout à fait.
Donc par exemple, je vais vous poser une question qui va vous sembler sûrement très naïve, mais est-ce que je peux me placer d'un point de vue lesbien sans être moi-même lesbienne ?
Alors, c'est ça.
c'est ça quand même ça, l'enjeu.
C'est l'enjeu et c'est tout l'enjeu aussi du conflit, un conflit presque larvé des années 70 et qui va complètement éclater en 80 lors de la première parution en France des deux articles de Monique Wittig, La pensée straight et On ne naît pas femme dans la revue Question féministe. Parce que je le disais tout à l'heure, hein, cette histoire d'article sur la pensée straight, donc est publiée suite justement au refus de Wittig de dire on fait un numéro spécial sur les lesbiennes en question féministe. Et apparaissent ces deux articles, quand je dis un conflit larvé, c'est-à-dire qu'effectivement, ce rapport entre lesbianisme et féminisme est donc sur la place de l'hétérosexualité, c'est-à-dire peut-on rester hétérosexuel en étant lesbienne politique, est une question qui est présente depuis le début du mouvement. Alors évidemment, non, dans une posture lesbienne radicale, et c'est tout l'enjeu de ce conflit qui va d'ailleurs donner fin à la fin de la revue, hein, Question féministe, c'est-à-dire c'est l'idée qu'on ne peut pas maintenir des relations hétérosexuelles dans la vie, on va dire, privée, en étant lesbienne politique, puisqu'en fait, c'est une manière de maintenir le système.
Mais alors, d'une certaine manière, c'est presque un tenat, parce qu'on peut avoir envie d'abolir un régime politique fondé sur l'hétérosexualité tout en étant hétérosexuel. Et ça, c'est difficile quand même de conduire son désir, de le changer. Là, il y a un problème d'articulation entre son désir propre d'individu et des convictions politiques.
Alors, c'est vrai, est-ce qu'on est dans l'ordre du désir ? Après, la question du désir, je pense que c'est encore une autre question. Est-ce que mais c'est vrai que c'est une vraie question. Est-ce que la politisation peut transformer les formes du désir ?
Oui.
Alors, à l'époque, en tout cas, c'est l'idée. Tout à l'heure, vous parliez de les lesbiennes ne sont pas des femmes, etc. Ça voulait dire quoi ? Ça veut dire quand même que...
Alors, pour reprendre juste pour les auditeurs, les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est donc une phrase que Monique Wittig prononce dans son discours de 1978 qui s'appelle « La pensée straight ». Et cette phrase a été un véritable choc.
C'est ça.
Qu'est-ce que ça veut dire, les lesbiennes ne sont pas des femmes ? On l'a vu, ça veut dire qu'elles échappent au régime hétérosexuel et qu'elles ne correspondent pas au concept de la femme.
Alors, elles échappent, ça veut dire, si on parle en termes marxistes, hein, donc on parle de classe de femme, classe de sexe homme. Ça veut dire que les femmes, c'est pas qu'elles échappent, c'est que les lesbiennes ne sont pas des femmes, elles échappent à l'appropriation privée, c'est-à-dire à l'appropriation du travail domestique dans le cadre du contrat qui est un faux contrat hétérosexuel. Ou du mariage hétérosexuel. Alors, dans ces conditions, les lesbiennes, effectivement, échappent à cette définition femme. Mais elles n'échappent pas à l'appropriation collective. Parce que, comme toutes les femmes dans ce cadre-là, elles vont subir les inégalités de salaire, par exemple. Elles peuvent subir des violences sexuelles dans l'espace public. Donc, à ce titre, elles n'échappent pas à la catégorisation femme.
Et puis, j'ajoute, parce que Monique Wittig le dit, que les lesbiennes qui n'ont pas d'enfants, qui ne sont pas mariées, sont vues comme des individus désœuvrés qui donc doivent nécessairement s'occuper des plus pauvres, des plus petits, des plus vulnérables.
Et là, elle est très inspirée, elle dialogue beaucoup avec une autre sociologue sur cette question, avec Colette Guillaumin, puisque ce concept d'appropriation privée et d'appropriation collective émane des textes de Colette Guillaumin qui effectivement inclut le service aux autres. Et on pourrait complètement le lier d'ailleurs à votre dernière émission sur Jeanne Dielman. Non mais c'est vrai. Alors, premièrement, c'est ça. Les lesbiennes ne sont pas des femmes, mais ça n'est pas que ça. C'est aussi l'idée que la notion même de femme, cette catégorisation femme, elle n'a de sens que dans les systèmes de pensée économique hétérosexuels. C'est-à-dire, effectivement, ce rapport de soins aux autres, ce rapport de service aux autres, qui fait partie du travail gratuit. Elle vient remettre en question la notion même de travail domestique, mais de travail tout court. C'est-à-dire, si on l'élargit, combien de femmes produisent du travail gratuit dans ce faux contrat et du travail invisibilisé. Donc, effectivement, pour Wittig, les lesbiennes échappent à l'appropriation privée en sortant de cette dépendance personnelle, et ça c'est important, d'un homme, c'est-à-dire, et aussi effectivement de la maternité. Alors la question qui se pose, pour répondre quand même à votre question de tout à l'heure, c'est, alors en tout cas, elle se pose dans ces termes dans les années 80, c'est est-ce que quelle est la place des lesbiennes dans un mouvement féministe qui ne pense pas la société hétérosexuelle comme racine du système ? 1. 2. Est-ce que le mouvement des femmes est une réponse pour penser au lesbianisme politique ? Et c'est là la dualité. Et on pourrait parler de pensée féministe versus pensée lesbianiste. Voilà. Aujourd'hui, dans le contexte contemporain, est-ce qu'on peut maintenir cette dualité et peut-on, en gros, rester hétérosexuel tout en ayant une critique de l'hétérosexualité comme régime politique? Je n'aurais pas une réponse toute faite. Sur un point de vue théorique, je comprends ce que dit Wittig. Mais en tout cas, dans l'approche wittigienne et du lesbianisme radical et qui a donné lieu à ce schisme dans les années 80, c'est effectivement l'idée que on ne peut pas avoir de compromission, sinon le rapport d'oppression dure ou perdure.
Alors, on parle depuis tout à l'heure de la pensée straight. Oui. On va définir ce qu'est cette pensée straight. Mais avant ça, je vous propose d'écouter un ensemble d'archives d'hommes qui parlent justement de la femme, ce concept que dénonce Monique Wittig. Et ces archives, quand même, je le précise, datent des années 60-70 et début 80.
Quelle est la qualité essentielle pour une femme, à votre avis ?
À mon avis, c'est la simplicité, mais j'ajoute aussi la féminité, naturellement.
Tout d'abord la féminité, puisque c'est une femme. Le charme et la féminité.
C'est la grâce.
L'élégance, le charme, sa beauté en même temps.
Qu'est-ce qu'elle a comme défaut ?
Elle n'en a pas. Elle est bonne cuisinière, elle n'en a pas de défaut.
Non, si, elles sont libres tout en étant au foyer, à mon avis. Elles doivent rester à la maison. C'est indispensable. L'éducation des enfants ne peut se faire qu'avec la femme au foyer.
Pourquoi ? Parce que c'est le rôle d'une femme d'avoir des enfants ?
Il y en a qui viennent des fois et sont un peu plus marqués que d'habitude. Alors c'est sûrement un accident de ménage. Il y en a qui aiment être battus.
Il y en a qui n'aiment pas.
Il y en a qui ne sont pas battus parce qu'elles n'ont pas besoin d'être battues.
Pour les dames, vous préférez les cheveux courts ?
Oui, les cheveux courts. Et surtout, je n'aime pas ce gros chignon qu'on a fait sur la tête maintenant.
Ah bon ?
Ça, je trouve, c'est affreux.
La fidélité, la gentillesse, la grâce. Femme a ces trois qualités, ben c'est du tonnerre.
Est-ce qu'on a là un condensé de ce que Monique Wittig dénonçait comme la pensée straight, à savoir cette pensée hétéronormée, hétérosociale, hétérosexuée, en fait, qui vont définir un ensemble, qui vont donner un ensemble de catégories à la femme?
Oui, c'est assez exemplaire.
C'est pas mal, hein? C'est un bon condensé.
C'est assez caricatural. Wittig, effectivement, elle va critiquer complètement, au fond, cette dépendance mentale, c'est-à-dire par lesquelles les dominants vont définir d'abord ce que serait une femme, d'une manière très naturaliste, dans un groupe qui présenterait des traits singuliers, et à partir de ces traits singuliers, qui définirait un groupe social. Mais on pourrait élargir cette critique, par exemple, à toute catégorie. En général, c'est tout. Voilà. En fait, c'est ça. Le principe même de cette critique de la logique de la différenciation ou de la logique de la différence ou de la pensée de la différence, c'est qui définit l'autre. Qui définit la différence? C'est généralement qui a le pouvoir hégémonique. Donc là, typiquement, quand on entend cet homme, c'est typique, mais on pourrait l'étendre à la question du racisme, à la question du classisme, à la question du validisme, c'est-à-dire à tout présupposé hégémonique. Autre élément, quand même, dans la pensée straight, justement, qui en découle, c'est que dans son texte, chez Wittig, il y a un enjeu politique important, justement, c'est celui du langage. Mais pas que. Alors, il y a le langage, comme on vient de l'entendre, hein, du commun, mais ce langage du sens commun, il est produit aussi dans et par les sciences sociales.
Donc, par exemple, sous forme de concept.
Sous forme de concept. Il est produit aussi. Alors, elle élabore toute une critique de la psychanalyse, hein, par exemple, dans cet article sur. Mais dans ces formes d'appropriation du discours, c'est-à-dire sur les groupes minoritaires, parce que ce n'est pas n'importe quelle appropriation du discours. Et en sciences sociales, hein, d'une manière générale, on en parlait tout à l'heure un peu en off l'émission, mais c'est vrai qu'elle c'est une grande érudite quand même, Monique Wittig, qui va faire travailler les textes en cours à l'époque, hein, qui vient critiquer Lévi-Strauss, qui vient critiquer un certain nombre d'auteurs majeurs,
qui s'appuie aussi sur des textes de philosophie solide. Donc elle va reprendre Aristote, elle va se baser sur Marx, sur la dialectique hegelienne
tout
beaucoup, elle va le critiquer. Donc effectivement, c'est quand on lit les textes de Wittig. Et j'en profite pour signaler quand même que ce texte, La pensée straight, est un texte de 78, mais qu'il y a aussi le recueil La pensée straight, qui donc, ce texte-là a donné son titre à ce recueil-là qui date de 92 et qui rassemble un ensemble de textes qui sont, comme vous l'avez dit, à la fois des textes de réflexion politique sur le contrat social, on l'a dit aussi sur le « On n'est pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir, mais aussi des textes sur l'écriture.
C'est
ça, c'est une articulation qui est fondamentale chez Wittig, c'est ce lien entre les catégories de pensée, les catégories de langage et les catégories politiques.
Absolument, absolument. Et alors ça, c'est fondateur chez elle, hein, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps effectivement un dialogue entre théorisation et écriture littéraire, et qui nous permet toujours quand même de penser au-delà de ce qui existe. Et dans ces textes théoriques, on pourrait dire que elle vient critiquer aussi les sciences sociales sur un point important qui tiennent pour acquis. Et ça, c'est un point majeur, que toute société est hétérosexuelle, a priori, mais aussi qui nie donc toute possibilité de créer nos propres catégories en tant que groupe minoritaire. Alors, quand je dis « nous » ici, c'est une étendue de groupe de places minoritaires. Hein. On pourrait, à minima, ici, dans cette pièce, dire « nous, femmes minoritaires ».
On est deux.
On est deux. Dans l'idée du groupe minoritaire, c'est comment aussi les sciences sociales nous empêchent de penser... sinon, on doit penser dans les termes du dominant ou des dominants en sciences sociales. Et c'est ce que Monique Wittig qualifie, et ça c'est important, et je vais vous donner des exemples très contemporains, par l'oppression, dit-elle, matérielle des individus par les discours. Donc il y a la question quand même de la matérialité de la langue, qui n'est pas juste un espace symbolique, mais qui est structuré aussi, certes dans l'imaginaire littéraire, mais aussi dans les constructions théoriques. Et ces discours, au fond, qui parlent de nous en tant que groupe minorisé, prétendent dire la vérité sur nous, dans un champ qui demeure apolitique, non réflexif et au fond, pour Wittig, qui nous ordonne de rester dans les rangs. Par exemple, je vais vous donner des exemples très précis. Dans le champ académique, travailler sur des sujets minoritaires, eh bien, on peut tout à fait être jugé comme travaillant sur des sujets pas si importants, pas assez scientifiques, trop militants, trop personnels, pas assez... Moi, j'ai pu l'entendre, hein, moi qui ai travaillé sur les questions lesbiennes, au fond, c'est trop spécifique et c'est pas assez général. Que le fait de travailler sur ces sujets va surdéterminer le sens accordé à ces sujets et on va plus lire les sujets en tant que tels, mais la personne qui les porte. Et c'est aussi pour ça que, Wittig a écrit un très beau texte qui est d'ailleurs dans la pensée historique, qui est l'avant-note et qui relie son travail d'écrivain d'ailleurs, l'avant-note à l'avant-propos du texte de Joanna Barnes où elle dit il n'y a pas d'écriture féminine parce que si on considère qu'il y a une écriture féminine, alors on rentre pas dans le champ littéraire majeur. Donc c'est aussi ça, hein, toute la dénonciation de Wittig dans la pensée stoïque. C'est l'idée que ce langage vraiment opère non seulement des catégories totalisantes, mais nous exclut du champ.
Mais comment Monique Wittig arrive à défendre à la fois cette thèse, tout justement en écrivant en fait sur des sujets généraux, c'est-à-dire tout en ayant aussi un travail en fait de philosophe, de théoricienne. Le travail universitaire, philosophique, d'anthropologie, de sociologie oblige à la généralisation. Alors comment généraliser tout en partant d'un point de vue minoritaire ? Ça, c'est aussi une vraie contradiction.
Alors, je ne sais pas si ça. Alors, je sais d'abord en sciences humaines, je ne sais pas si on. Moi, je ne crois pas qu'il y ait de sujets généraux. Alors, c'est vrai que la garantie de la dite objectivité universitaire, c'est l'idée que on va monter en généralité, en fait, un sujet. Monter en généralité signifierait que, n'importe quel sujet pourrait, établir des lois générales. Alors, ça, c'est valable pour des concepts. Un concept, le concept de Wittig sur l'hétérosexualisation, c'est un concept majeur.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire.
Par exemple, la thèse que j'ai soutenue en 2008, où j'ai travaillé sur justement les procédés de nomination de soi en tant que lesbienne, je me suis complètement inspirée de Monique Wittig et de Nicole Claude-Mathieu, qui est une anthropologue majeure aussi, et qui, au fond, je me suis attachée à comprendre comment les lesbiennes n'étaient pas des femmes. Et donc, quels étaient les procédés de déshétérosexualisation, ou comment ces processus de déshétérosexualisation influaient sur le comment, oui, ne sont-elles pas des femmes. Bon. Pour autant,
vous avez bien prétendu tenir un point de vue général qui pouvait parler à tout le monde. Et Monique Wittig, quand elle parle d'abolir l'hétérosexualité, veut le faire au nom de tous et de toutes. Elle ne veut pas juste le faire pour une dizaine de personnes.
Ah, mais absolument. C'est pour ça aussi que. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça aussi que. Alors, je dirais qu'il y a deux éléments. Un, c'est que dans son procédé d'écriture, elle procède, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais à une volonté de changer les réalités textuelles et les réalités sociologiques. Fondamentalement, c'est ça. Et je dirais que la montée en généralité, on pourrait l'aborder chez Wittig par ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'au fond, tout le monde peut se saisir de cette transformation des réalités textuelles ou sociologiques. Ça, c'est une première, peut-être, réponse. La deuxième, là où elle est très sensible à la question, c'est qu'elle dit que, pour autant, nous sommes des chercheurs, chercheuses ou écrivains minoritaires. Ça veut dire quoi, minoritaire ? Ça ne veut pas dire qu'elle essentialise une position minoritaire. Ça ne veut pas dire qu'elle brandit une revendication minoritaire. C'est l'idée que on écrit ou on pense à partir de positions socialement dominées où on est soit invisibilisé, soit nié. Et donc, à partir de cette position minoritaire, on produit des écritures à l'oblique. Mais à l'oblique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est travaillé, et pour reprendre la formule de Wittig aussi, à corps et presque à cœur, par justement notre expérience sociale de dominer. Mais c'est pour la changer. C'est une forme de résistance que d'écrire à partir de cette position. Mmh. Et justement, je pense que ça pourrait presque se relier après à ce qu'on a appelé les savoirs situés, c'est-à-dire être en capacité à montrer d'où on écrit et donc être en capacité d'être clairvoyante sur cette position de l'oblique. Ah, ça, pour moi, ça, c'est une position d'objectivation du savoir et donc de scientificité. C'est-à-dire de rendre compte de la position à partir de laquelle on écrit.
Eh bien, justement, on va écouter tout de suite la voix de Monique Wittig. Enfin, plutôt d'abord, le moment où elle a reçu le prix Médicis pour l'Opoponax. C'est cette manière, justement, de passer par la littérature pour changer. C'est un peu banal de lire comme ça, mais pour changer le monde.
Étrange Opoponax, puisque ce fut le seul grand prix littéraire remporté en 1964 par une femme, la jeune et timide Monique Wittig, alsacienne d'origine.
Monique Wittig, vous êtes extrêmement jeune. Quel âge avez-vous ?
J'ai 29 ans.
Vous écrivez, et c'est votre seul métier ou bien vous exercez une autre profession ?
Non, je suis correctrice pour plusieurs maisons d'édition.
Et quand et comment écrivez-vous ?
Le Popanax, je me suis arrêtée de travailler pour l'écrire.
C'est votre premier livre,
non,
Le Popanax ?
J'avais écrit un autre roman qui n'a pas été publié et qui n'avait pas pour thème l'enfance.
Je suis Le Popanax. Il ne faut pas le contrarier tout le temps comme vous faites. Si vous avez du mal à vous peigner le matin, il ne faut pas que vous vous en étonniez. Il est partout. Il est dans vos cheveux. Il est sous votre oreiller quand vous commencez à dormir. Cette nuit, il vous donnera tant de démangeaisons par tout le corps que vous ne pourrez pas vous endormir. Le jour qui arrivera derrière la fenêtre demain matin vous permettra d'apercevoir l'Opoponax assis sur l'appui de la fenêtre. Vous lui écrirez et vous pourrez mettre la lettre derrière le piano de la salle d'étude. Je suis l'Opoponax. Valérie Borges tourne dans tous les sens le papier qu'elle vient de trouver dans son bureau. L'écriture est bizarre, faite avec des cercles et des angles aigus. On peut à peine la lire. On voit qu'elle est peinte au vermillon.
Voici la preuve que combat politique et chantier littéraire vont de pair, puisque l'Opoponax, écrit en 1963-64, qui a remporté le prix Médicis en 64, a été écrit. C'est l'histoire d'une petite fille, en fait, de la maternelle jusqu'à la fin de sa scolarité. Eh bien, il a été écrit avec le pronom indéfini « on ».
Alors, c'est parfait cette transition, parce que justement, pour répondre à votre question précédente sur aussi la montée en généralité, ce pronom « on » dans le Opoponax, c'est effectivement une tentative d'universalisation à partir du groupe marqué. Et ça, c'est très important chez Wittig, c'est-à-dire l'idée de transformer le langage dans les formes, mais aussi et surtout avec celles qui sont associées à cette marque du genre. Là aussi, alors effectivement, on pourrait dire, est-ce que c'est une volonté de généralisation, mais plutôt, moi, je dirais, de renversement des procédés d'universalisation, puisqu'elle vient bien montrer qu'on est dans une fausse universalisation. Et l'autre élément, c'est de dire aussi que pour Wittig, et on pourra après parler des guerrières dans le même sens, mais pour Wittig, nous constituer dans cette écriture, que ça soit une écriture, elle parle pas d'une écriture lesbienne en tant que telle ou d'une écriture essentialisée en tant que telle, pas du tout.
Elle refuse d'ailleurs tout ce qui est tous les poncifs du genre, l'écriture féminine. Voilà. Elle déteste d'ailleurs le terme de féministe. D'ailleurs, il faut le dire.
Absolument. Elle dénonce cette écriture dite féminine parce que pour elle, ça reviendra à dire que les femmes n'appartiennent pas à l'histoire littéraire. Que les femmes qui auraient une écriture spécifique, qui auraient une écriture subalterne dans le champ littéraire, elle écrit même, et toujours dans cet avant-propos au texte de Djuna Barnes, La Passion, qui est aussi une grande écrivain, elle écrit « L'écriture féminine, c'est comme les arts ménagers et la cuisine ». Vous voyez le lien Donc il y a l'idée qu'il faut se constituer, certes, soi-même dans l'écriture, construire nos propres légendes, en quelque sorte, être ce qu'elle dit, d'ailleurs devenir héroïque dans la réalité épique dans les livres, mais c'est écrire d'un point de vue qui est... Elle écrit d'ailleurs tout ça, mais c'est écrire dans le point de vue universel et particulier. C'est-à-dire, c'est pas du...
Ça rejoint effectivement l'articulation entre généralisation et minoritaire. On a parlé de l'Opoponax où Monique Wittig se sert du pronom indéfini « on ». Il y a aussi le texte « Les guerrières », pas « Les guerrières », « Les guerrières » qui a été publié en 69 où elle rend universel le « elle ». C'est-à-dire le pronom féminin pluriel, c'est une sorte de poème épique. Et voilà autant de stratégies, dit Monique Wittig, pour justement essayer de renverser la langue, dépasser en fait cette hétéronormation du langage, mais quand même dans la pensée straight, dans le recueil, je pense notamment au texte « La marque du genre », elle dit quand même qu'il faut encore imaginer une autre forme de langage. C'est-à-dire que même rendre universel le « elle », se servir du « on », elle dit que ça n'est pas suffisant. Mais là, Monique Wittig semble presque impuissante. Elle ne sait pas comment faire, donc elle bute quand même sur cette difficulté.
Mais qui est une réelle difficulté, parce que c'est un vrai point de butée, encore aujourd'hui. On est confronté à ce point de butée, c'est-à-dire ce principe de l'altérité qui est toujours... Aujourd'hui, on utilise le pronom « yel ».
Oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle en aurait pensé, Monique Wittig ?
Est-ce que ce pronom « yel » vient renverser ou vient... Elle n'est pas dans une volonté de multiplier les catégorisations, mais de les abolir.
Donc ça, dans ce sens-là, ça ne lui convient pas.
Elle n'est pas là pour le dire malheureusement, mais je suis pas sûre, parce que justement vous parliez des guerrières, ce elle collectif au pluriel dans les guerrières, il vient renverser là aussi le point de vue universel. À partir de ce elle pluriel qu'elle vient signifier comme une présence presque souveraine, comme sujet constituant. Pour autant, cette fameuse citation parce que dans son écriture, il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'assaut. Enfin, il y a quelque chose qui vient nous saisir. On est obligé de penser autrement. Voilà, d'où cette citation, elles affirment triomphant que tout geste est renversement. C'est l'idée que tout geste produit ce renversement-là dans son écriture. Mais attention, ce « elle » pluriel universel, il ne renvoie pas à la féminisation du monde. Ça, c'est sûr que la marque du genre et la marque du féminin dans la langue, elles s'y seraient opposées. Et en cela, elle rejoint les travaux, d'ailleurs, d'une linguiste qui s'appelle Claire Michard, avec qui aussi elle a dialogué sur cette question. Pour elle, c'est un sujet d'horreur, la féminisation de la langue.
Mais ça, c'est génial.
Mais tout comme, d'ailleurs, la masculinisation. Et c'est là où le yel, est-ce que ça serait pour elle une proposition de renversement? Je n'en suis pas sûre. C'est plutôt, en fait, elle essaie de tendre, et vous avez raison, on ne sait pas, mais elle essaie de tendre à rendre obsolètes les catégorisations de sexe dans le langage, en fait, c'est ça.
Mais est-ce qu'on peut, je vais citer quand même cette phrase de Monique Wittig, donc dans La Marque du Genre, où elle dit « Ce qui veut dire que la tendance actuelle, comme dans Écrivaine, adoptée récemment, me paraît non pas aller vers un dépassement des genres, comme il est souhaitable si on veut les voir abolir, mais d'une part aller vers son renforcement et d'autre part perdre le droit à la généralisation et à l'abstraction qui est virtuelle dans les nombreux textes scientifiques qui traitent de l'homme, puisque homme signifie d'abord être humain et seulement par dérivation mâle biologique. » Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que moi, je me disais que autrice, écrivaine, doctoresse, maîtresse de conférences et autres, c'était pas mal. Et Monique Wittig, bien au contraire, dit pas du tout. Alors ça, là-dessus, il y a encore une scission entre Monique Wittig, sa pensée paraît encore spécifique, originale, même marginale, parmi les pensées féministes actuelles.
Absolument, absolument. Alors, je dirais, c'est vrai qu'il n'y a pas de solution toute faite, mais parce que justement, comme le langage est le produit, ou en tout cas coproduit le rapport social, on ne peut pas se défaire de l'analyse du rapport social pour parler du langage. C'est, voilà. On pourrait dire que pour Wittig, il y a une stratégie à long terme. Et la stratégie à long terme, c'est effectivement ne pas surnaturaliser cette marque du genre dans la langue. Peut-être que l'accord de proximité serait une résolution intermédiaire.
Par exemple, je, tu, ou quoi comme accord,
l'accord
de proximité? Le nombre, il y a plus de femmes dans la pièce, donc on accorde au féminin?
Voilà, c'est ça. Ou effectivement, on accorde au dernier nom commun. Bon, ça serait possible. Mais la position, je pense, pour Wittig, la position, en fait, qui est une forme de féminisation de la langue, serait sans doute pour elle une non-position, ou en tout cas une position du très court terme, mais qui a pour risque de maintenir cette dualité du genre.
En fait, ce que je trouve très fort chez Monique Wittig, c'est de dévoiler la force du langage. En cela, elle annonce, elle préfigure Judith Butler, qui va d'ailleurs la reprendre, sur la performativité du langage. Mais en même temps, ce langage-là, on voit bien qu'elle a du mal à vouloir le réformer. C'est-à-dire qu'elle part du principe, dans un de ses textes où elle cite Aristote, c'est au début du livre, où elle dit, mais en fait, Aristote, dans les qualificatifs d'un être, a déjà pensé le féminin du côté du trouble, du sombre, du déclassé. Et il faut repenser ça. Et dès que l'on parle, en fait, on est déjà de ce côté-là. On est déjà dans cette catégorisation-là. Et c'est très difficile d'en revenir sur les prémices de notre pensée, en fait, qui sont bien antérieures à nous. Réformer le langage, est-ce que c'est vraiment possible, en fait? Elle nous met face à cette question, quand même, Monique Wittig.
Mais oui. Elle nous met face toujours, je dirais, c'est pour ça que je dis qu'elle a aussi une écriture utopique, dans le sens du terme de penser au-delà de ce qui existe. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est peut-être pas forcément c'est pas une pensée pragmatique. C'est une pensée d'aller toujours au-delà. Mais je pense qu'il faut pas le prendre comme une résolution. Enfin, c'est pas l'idée d'une résolution immédiate.
C'est un appel.
C'est ça. C'est-à-dire l'idée que, déjà, si on a l'imaginaire de comment ça pourrait être possible, alors on est dans un procédé de déconstruction. Et alors, on n'est pas dans des reconductions naturalisantes aussi, justement, de cette marque du genre de manière permanente. C'est comme dans Le corps lesbien.
Donc ça, c'est un autre texte, de Monique Wittig, qui date de 73.
C'est ça. Dans Le corps lesbien, d'ailleurs, elle l'écrit dans un de ses textes, mais elle dit « Le corps lesbien m'est apparu subitement et je me suis mise à rire. Deux mots, le corps qui a une connotation ou un genre masculin, on va dire. Moi, je n'aime pas non plus dire, hein, mais en français. Et avec le mot lesbien qui vient le qualifier. Et alors, on se trouve dans une déstabilisation de la notion générale de corps. Et en fait, je pense, voilà, tout son procédé, il est là. C'est toujours, elle vient déstabiliser ce qui paraît comme un principe justement générique et qui n'en est pas. Après, à nous aussi de nous en emparer pour se penser collectivement autrement.
Bah déjà, on n'est pas d'accord sur l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, donc ça paraît, même Monique Wittig ne serait pas d'accord avec ça. Donc ça paraît déjà, réformer des conventions comme le langage paraît impossible, d'autant que Monique Wittig dit bien qu'à travers le langage, chacun d'entre nous se dévoile en tant que singularité. Même un je ou un tu pour Monique Wittig, même la langue anglaise qui ne marque pas les genres comme le français, elle trouve déjà que ça va trop loin, que le « je » et le « tu » vont trop loin dans le dévoilement de notre genre. Est-ce que là, ce n'est pas Monique Wittig qui va trop loin ? Quand je dis « je », je pourrais très bien parler au nom de Géraldine sans aucune marque de genre. Alors, j'ai un prénom féminin.
Et c'est ça.
Donc, mais imaginons, je m'appelle marque... Claude.
Alors voilà, Claude, c'est effectivement une marque, plus indifférenciée. Je ne sais pas si elle va trop loin. Moi, je dirais pas qu'elle va trop loin. Je dirais au contraire, enfin, que ça nous permet, c'est ça, que ça nous permet toujours de sortir de quelque chose d'impossible. Mais il faut pas prendre. En fait, c'est l'idée qu'on ne peut pas imaginer la langue sans le rapport social dans lequel elle se situe. Voilà, la langue, elle n'est pas détachée de tout ça. Donc, ça suppose effectivement, c'est un travail de refondement total de nos manières d'agir aussi dans nos corps et dans nos perceptions. Ça, c'est vrai.
C'est la première grande manifestation féministe qui se tient à Paris depuis 1936. Environ 2000 femmes, souvent jeunes, quelquefois plus âgées, défilent de la République à la Nation à l'appel du MLF, le mouvement de libération de la femme. Mot d'ordre central, briser, je cite, les chaînes de l'esclavage qui depuis toujours réduisent à une condition inférieure la femme. Cette marche est internationale puisque des manifestations semblables se déroulent aujourd'hui aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Allemagne. Et pour ces descendantes des suffragettes, elles le revendiquent d'ailleurs, la première des libérations se situe sur le plan sexuel. Les militantes féministes de 1971 réclament en toute priorité une sexualité heureuse et déchargée des angoissants problèmes matériels, et elles revendiquent la contraception libre et gratuite et la liberté de l'avortement.
Alors voilà, on est en 1971, au moment d'une manifestation du MLF auquel a contribué, enfin fondée en partie, hein, par Monique Wittig. 50 ans après, Monique Wittig meurt dans l'indifférence, je l'ai dit en début d'émission. Pourquoi Monique Wittig a occupé cette place si marginale dans le courant féministe ? Alors oui, d'accord, les thèses sur le lesbianisme, oui, les thèses sur l'avortement et la maternité dont elle s'est moins emparée, mais là, aujourd'hui, elle semble être redécouverte. Pourquoi on en a besoin maintenant de Monique Wittig et pourquoi, à l'inverse, elle a été autant oubliée pendant ces années ?
Alors, c'est tout à fait le constat que je me suis dit en venant ici, ce 3 janvier 2023, 20 ans avant, effectivement, je me souviens très bien de la mort de Wittig, et en été, on a fait quelques commémorations à la Maison des Femmes de Paris, on a fait des choses, mais c'était effectivement, alors là, beaucoup plus minoritaire. Alors, je dirais que il y a effectivement actuellement une diffusion beaucoup plus grande de ces travaux. Alors ça a été par étapes. Il y a eu 2001. Alors 2001 en France, en tout cas en France. Je situe ce qui se passe ici en 2001 en France avec toute l'émergence à la fois des études, mais en fait qui sont pas installées en tant que telles, mais d'une émergence, en tout cas d'un espace académique, d'études gays et lesbiennes, des mouvements queer. Il y a eu vraiment, en tout cas, une diffusion des travaux de Wittig, avec, vous l'avez dit, la publication aux éditions Balland de La Pensée Straight. Il y a eu aussi, à l'époque, un colloque au Riddle à Paris qui s'appelait « Parce que les lesbiennes ne sont pas des femmes » par Sam Boursier et Suzette Robichon, qui avait donné lieu à un livre aux éditions gays et lesbiennes. Moi, c'est le moment où je rencontre physiquement Wittig, qui a été le grand moment de ma vie aussi, d'ailleurs. Mais Voilà, et donc à l'époque, voilà, on voit quand même un espace, mais en fait qui reste très marginal, en tout cas dans l'espace académique. Par contre, dans les espaces militants, queer, lesbiens, féministes de l'époque, elle prend, Wittig et ses travaux prennent une grande place. Puis après, parce que vous dites les thèses, il n'y a pas eu beaucoup de thèses sur le lesbianisme en France. Il y a eu trois, enfin à ma connaissance, il y a 3, 4, 5 thèses. Voilà, mais c'est quand même pas énorme non plus. Et là, depuis, effectivement, on voit depuis une dizaine d'années un renouveau ou en tout cas une réappropriation. Toujours dans les espaces militants, c'est encore très faible dans les espaces académiques. Hein. Alors il y a eu en 2009, il y a eu. En fait, Wittig, elle arrive dans le champ académique par le champ littéraire et le champ. De l'analyse textuelle et stylistique. Notamment, il y a eu un colloque à Lyon en 2009.
Pardon. Buvez un petit coup d'eau si vous voulez.
Oui, je suis désolée.
Vous inquiétez pas. Donc, Monique Wittig, comme vous le disiez, est reprise depuis, depuis quelques années.
Voilà. Et là, il y a un colloque qui a été organisé par Yannick Chevalier et Benoît Auclair. Bon.
Qui a donné lieu à l'ouvrage collectif Lire Monique Wittig aujourd'hui, hein, auquel vous avez participé.
Et là, on revoit effectivement autre chose. Moi, j'ai une doctorante qui s'appelle Héloïse Russel-Hollande, qui est en train de finaliser un projet de thèse avec... on va faire une co-tutelle avec une de mes collègues au Québec, Elsa Galran, et qui reprend cette notion d'hétérosexualisation par l'analyse du travail domestique dans les couples lesbiens. Donc là, on voit un renouveau quand même. Voilà, il y a eu un livre récemment qui est sorti d'Émilie Noteri sur Wittig, où l'auteur essaie plutôt d'introduire des éléments biographiques de Wittig, et donc des éléments de subjectivité. On voit, je pense aussi aux travaux d'Elina Ilana Elio.
Mais qu'est-ce qui plaît maintenant alors chez Monique Wittig, et qui peut-être en fait n'avait pas plu pendant des années? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Je pense notamment à la lecture de Judith Butler au début des années 90, enfin en 1990, dans Troubles dans le genre, qui la reprend. Est-ce qu'en fait il fallait forcément passer par une redécouverte, et notamment en fait du côté États-Unis, pour en fait pouvoir la redécouvrir en France?
Je pense pas que c'est par Butler que Wittig est revenue sur la scène française. Je pense qu'effectivement, elle est revenue sur la scène française. Alors, mais différemment dans les milieux militants et académiques, encore une fois.
Hein. Ouais.
Dans le milieu académique, c'est par le champ littéraire, très clairement. Et je trouve que dans les espaces militants féministes, elle a toujours été plus ou moins présente par l'écriture littéraire. Les guerrières. Les guerrières, ça a été diffusé dans plein de langues. Très clairement, ça a été l'ouvrage sans doute qui a été le plus diffusé dans les espaces militants. Là, aujourd'hui, ce que je vois dans les espaces militants, c'est un renouveau des questions autour de, vous l'avez abordé tout à l'heure, hein, de l'hétérosexualité, lesbianisme, voilà. C'est-à-dire comment maintenir l'hétérosexualité tout en ayant une conscience politique et voulant transformer les rapports d'oppression. Alors sans doute que voilà, elle revient aussi par ces questionnements-là et elle acquiert une toute modernité, hein, dans ces espaces de politisation. Malheureusement, dans les espaces académiques, je trouve qu'elle est encore trop peu diffusée, ou en tout cas, ces concepts peuvent être mobilisés, mais sont neutralisés du point de vue politique, ou sont encore, c'est quand même pas encore très légitime, en tout cas en sociologie, en anthropologie, de mobiliser Wittig comme cadre conceptuel.
Et alors pourquoi vous pensez que Butler n'est pas forcément celle qui a fait redécouvrir Wittig en France ?
Ben, j'ai lu un article dernièrement dans l'ouvrage Photos de famille où elle revient, Butler revient sur son rapport à Wittig, où elle dit elle-même que dans les ouvrages qui ont été traduits, notamment les troubles dans le genre, elle n'a pas assez rendu compte des apports de Wittig à son travail et du dialogue qu'il y avait avec Wittig. Donc je pense que pour beaucoup de personnes, Butler n'est pas forcément associé à Wittig, et sur le plan théorique, en tout cas, il n'y a pas forcément une association immédiate. Et pour d'autres, il y a une scène aussi très conflictuelle dans les années 90 entre les mouvements queer ou les pensées queer et les pensées wittigiennes, avec l'idée que Wittig était d'abord une lesbienne radicale et n'était pas une auteure queer, et puis pour d'autres, elle va être réappropriée dans les mouvements queer. Donc elle suscite aussi un lieu de controverse, d'interprétation. Mmh. Au fond, elle n'a jamais été inexistante. Elle est sans doute réappropriée différemment selon les époques. Aujourd'hui, cette controverse, elle est bien moins présente dans les espaces militants. En tout cas, c'est pas de cela dont il s'agit quand on parle de Wittig aujourd'hui. C'est plutôt comment se réapproprier le concept d'hétérosexualité comme régime politique ou comme dans une émancipation politique. Il me semble.
Ce qui est intéressant aussi dans les mouvements féministes actuels, c'est la manière dont est travaillé le concept d'identité. Et ça, pour le coup, est-ce que ça aurait plu à Monique Wittig qui était vraiment dans un refus. Alors, on parle avec elle de catégories de sexe comme des catégories de classe. Est-ce que cette revendication des identités, l'idée que l'on veut se forger un jeu, se définir, est-ce que Monique Wittig aurait compris ce geste-là?
Alors, je pense que se définir, justement, à partir d'une position minoritaire, c'est très différent que de revendiquer des formes catégorielles qui, elles, viennent fixer des réalités sociales.
Donc, définition et catégorie, c'est quand même bien distinct.
C'est ça.
Identité et catégorie.
Et catégorie, absolument. Les catégories sociales, elles sont coproduites à l'intérieur des rapports sociaux. Elles émanent, au fond, de la production sociale. Les identités aussi, mais effectivement, elles viennent... Et puis, c'est pas le même courant théorique. Alors, je parle en tant que sociologue, évidemment,
oui.
Mais voilà, la notion d'identité, elle est très issue des courants, de l'interactionnisme symbolique, de l'école goffmanienne, c'est-à-dire... de l'idée qu'on va effectivement produire des réalités sociales, mais dans des jeux de relations sociales, effectivement, plus tirés... D'ailleurs, Butler est plus proche de ces approches-là.
De ces jeux sur les identités, de la parodie, de la subversion, elle est plutôt de ce côté-là, alors que Wittig...
Elle est plutôt de côté de la transgression. Wittig, elle est du côté du renversement.
Donc, l'abolition, la destruction, en fait, la révolution, d'une certaine manière.
C'est une pensée révolutionnaire. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'il faut fuir et le piège de l'hétérosexualité, qui est entendu comme un régime politique forcé. Donc, à l'intérieur de ce régime politique forcé, penser comme, encore une fois, c'est pas la pratique sexuelle, il n'est pas question d'identité hétérosexuelle. Il est question, au fond, de sortir de ce système, presque de sortir... ce que moi j'appellerais des sommations de genre. Vous savez, les sommations, c'est comme dans les violences policières, c'est l'ordre social par lequel on doit agir. Eh bien, pour Wittig, il n'y a pas d'autre solution que de fuir ce piège. Donc, la notion d'identité, elle vient resignifier, ou elle vient refixer des assignations de genre. Alors que pour... Et donc, je dirais que pour Wittig, la subversion, c'est d'échapper, et donc pour elle, il n'y a pas d'autre possibilité que de fuir.
Ouais, mais fuir, alors où ?
Ah, mais fuir vers
Le lesbianisme.
Ou pas ? Je suis pas sûre. Non, je crois vraiment pas que pour Wittig ce soit une fin en soi. Je pense que pour Wittig, fuir, c'est sortir c'est ça l'utopie chez Wittig. C'est-à-dire, c'est imaginer d'autres espaces qui ne sont pas encore advenus, mais des espaces où, au fond, les individus ne seraient plus marqués par leur genre.
Bon, c'est une utopie. Ça reste donc à construire.
Ça reste à construire.
Merci beaucoup.
Je suis désolée de ça.
Mais pas de souci. Vous avez le droit d'avoir une quinte de tout. Merci quand même d'avoir continué à parler, de nous avoir parlé de Monique Wittig. Merci donc, Natacha Djedkouti Ozorowicz. De vous, on peut lire Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité, représentation de soi. C'est disponible aux éditions Payot. On peut aussi lire Monique Wittig aujourd'hui. Vous l'avez cité, un ouvrage collectif dirigé par Benoît Auclair et Yannick Chevalier, disponible aux presses Sorbonne Nouvelle de Lyon. Vous pouvez, chers auditeurs, auditrices, lire de Monique Wittig La pensée straight, coordonnée par Sam Boursier. C'est disponible aux éditions Amsterdam. Et enfin, dernière recommandation, l'émission Toute une vie sur Monique Wittig, produite par Clémence Alza, disponible sur le site et l'application Radio France.
Merci. I play for you, I sing for you.
for you. I write, I scream, but nothing new. I've been in a desert where sound is all that remains. What has been done, you are gone. Do you only remember me? I am the one who's never been your lover, even in my dreams. You are the woman who released me.
She hopes you'll come back to us soon.
You are the woman who released me.
Merci à l'équipe de Sans Oser le Demander, Anaïs Isbert, Marie-Lise de Saint-Salvi, Gwendoline Troyano, Cyril Marchand, Laure Dallest, Marie Soisic, Fraboulet, réalisation Louise André, Nicolas Berger, prise de son Élise Le, Étienne Rouche. On se retrouve sur les réseaux Twitter, Instagram, bien sûr sur le site de France Culture, à la page de Sans Oser le Demander ou encore sur l'application Radio France.
You do feel empty. I'm sure you're not stronger than me. You are the woman.